Hello, on est le 12 février 2025. Il est presque 11h du soir. Je rentre du meet-up Code France à Paris, qui était très sympa. Voilà, et c'est pas forcément pour parler de ça que j'ai allumé le micro, mais c'est juste parce que j'avais envie de faire cet épisode, parce que j'en ai déjà prévu un autre demain, et que je suis un peu un nerd et que j'aime bien les choses sortent aux bonnes dates. Et voilà, alors qu'en réalité, je pourrais faire les deux épisodes demain, et puis ça changerait rien. Mais bon. Voilà, j'aime bien, et puis comme ça c'est fait, et puis voilà, ce qui est fait n'est pas à faire demain, ou je sais pas comment dire, un espèce de dicton comme ça. Ceci étant dit, j'en profite pour vous dire quand même que si vous êtes en France, que vous m'écoutez, n'hésitez pas, que vous vous intéressez au no-code, il y a des meet-up un peu partout. Voilà, le meet-up à Paris est très sympa, mais il y en a aussi dans d'autres grandes villes. Voilà, l'association No-Code France organise plein de trucs. Et donc c'est cool, c'est vraiment une occasion de parler de no-code et d'IA, évidemment, hein, le sujet est sur toutes les lèvres. Mais voilà, c'est et surtout de parler d'usage. Voilà, ça c'était cool que voilà, j'ai passé quand même 3 heures à discuter avec des gens de choses très concrètes et pas forcément de philosopher autour de certaines choses dont je vais parler d'ailleurs peut-être dans cet épisode. Mais donc voilà, c'était cool parce que voilà, j'arrête pas de le dire, hein, je pense ces derniers temps, mais voilà, j'essaye de me peut-être un peu de me réancrer un petit peu dans les choses concrètes après avoir un peu dérivés sur les sujets métaphysiques, philosophiques autour de l'IA et tout. Mais c'était aussi peut-être un passage nécessaire un petit peu dans la construction de la ligne éditoriale de mon contenu. Voilà, alors rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet dans cet épisode, ça va être très IA et demain, ça sera très no-code. Voilà, parce qu'il y a eu des news. Donc juste sur la partie no-code, pour vous teaser l'épisode de demain, bah, on va parler forcément du launch de Softer qui a eu lieu aujourd'hui, mais que je vais du coup commenter dans la matinale, et puis ensuite je ferai probablement aussi un petit épisode rapide de podcast qui renverra vers la matinale. Donc dans la matinale, si jamais vous écoutiez cet épisode là au moment où je vais le publier tout de suite là dans la foulée, et que vous devez vous connecter à 8h, bah voilà, vous pourrez être sûr. Sinon, et bah, tout ça se fera de manière asynchrone, mais toutes les ressources sont en ligne évidemment. Et puis on parlera d'un autre launch qui est prévu demain, qui est le launch de WeWeb, qui va être aussi très intéressant. Mais d'abord je voulais vous parler d'IA. Parce que, évidemment, il y a eu le AI Summit en France, et c'était un gros truc. Et c'était un gros truc que j'ai suivi de loin. Pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas que ça avait lieu, parce que je pense que c'est le genre d'endroit où on a quand même notre place potentiellement avec contournement. Mais bon, voilà, il se passe des choses de partout et c'est difficile de suivre, et donc ça, on n'était même pas au courant, on n'était pas invité. Donc voilà, on n'est peut-être pas encore dans les radars des influenceurs, des gens. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Il y avait des gens intéressants, il y avait aussi des gens moins intéressants que j'ai vu dans les invités, qui je pense ont moins leur place que nous, mais bon, ça c'est pas grave. On n'est pas de jalousie, et puis voilà, on a. Mais donc, j'ai suivi un peu de loin, parce que cet événement arrive à un moment où, comme je l'ai dit un peu dans l'intro, je suis un peu fatigué du bruit des grandes annonces et des choses comme ça. Donc, je vais pas vous faire une couverture journalistique de cet événement. Parce que il y en a eu plein de très bonne qualité, puis il y a eu plein de choses, mais je vais juste vous dire un petit peu mon point de vue sur tout ça. Bon, alors qu'est-ce que je retiens? Je retiens que voilà, que Macron a annoncé qu'il y aurait 112 milliards d'investissements. Donc voilà, toujours cette surenchère, donc des investissements qui vont venir principalement du privé. Si j'ai bien compris, donc on peut imaginer que ça sera fléché vers des choses qui ne sont pas forcément toutes celles qui vont dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Moi, un truc qui m'a fait un petit peu réagir, je dois dire, c'est qu'il y a un parti pris. Donc, évidemment, le AI Summit, ça a été l'occasion de positionner la France sur l'échiquier mondial de l'IA. Ces dernières semaines, on avait effectivement le sentiment qu'il n'y avait que les États-Unis et la Chine, et puis au milieu, en fait, on a l'Europe, et puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais oui, en Europe, on met pas l'argent où il faut, on a trop de réglementations, etc. » Bon, je n'étais pas complètement d'accord avec ça, il se trouve que ce AI Summit vient renforcer un petit peu ça. Et puis, comme on le disait déjà, il y a Mistral quand même en France, et donc là, effectivement, tout ça a permis une belle opération de communication de Mistral que j'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent. Et donc, il y a eu donc, les annonces de Macron, etc. Et donc, il y a ce truc de positionner la France. Et pourquoi la France peut être au top du game de l'IA? Eh bien, parce que donc déjà, ils ont dit, bon, bah, il y a plein d'argent qui va rentrer. Un truc qui est vrai, c'est qu'on a la chance d'avoir des excellents ingénieurs, chercheurs, etc. autour de l'IA. D'ailleurs, les bureaux, enfin, les équipes de DeepMind, de Google, de Faire, de Meta, de tout ça sont remplis de Français, sont même dirigés par des Français. Le laboratoire de Meta était fondé par un Français, Yann Lequin, déjà en 2015, donc ça fait longtemps. Hein. Donc on est effectivement, on a les ressources. Alors oui, on le sait, on ne va pas répéter, il y a une fuite des cerveaux, blablabla. Oui, bah c'est vrai, mais bon, la fuite des cerveaux, c'est aussi le problème, c'est que les gens, ils décident d'aller que travailler pour les plus offrants, quoi. Je veux dire, à un moment, je pense que, là je me permets un avis, les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que en étant en France, chez Mistral par exemple, on est quand même déjà bien payé, on n'est pas obligé d'aller travailler pour les Américains. C'est un choix, et c'est pas grave, moi je critique pas, je dis pas qu'on doit être forcément non plus patriote, mais c'est juste, il faut faire des choix, la fuite des cerveaux, elle n'est pas que liée au salaire et tout, c'est un moment, on a le droit aussi de vouloir aller travailler chez Google, mais il faut assumer le fait qu'on veut aller travailler chez Google, ou il faut assumer le fait qu'on ne veut pas aller travailler chez Google, mais qu'on veut travailler pour je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars par an. Et voilà, si les gens, bah, s'il n'y a que ça qui compte, bon, bah, c'est la vie, hein. Ça veut dire aussi quelque chose, quoi. Mais bon, c'est humain, néanmoins, je pense que quand on est chercheur en intelligence artificielle, on peut gagner bien sa vie à peu près n'importe où, quoi. C'est pas vraiment le sujet. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est vrai, la France a cet asset-là. Et puis, il y a un autre asset que la France a, d'après beaucoup de communication qui a eu lieu dans ces derniers jours, c'est l'énergie nucléaire. Alors là, j'ai pas envie de rentrer, il y a un débat qui peut être très, 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 très complexe. Je vais pas forcément rentrer dedans, donner mon avis à moi. Par contre, j'aimerais quand même offrir aussi aux gens qui ont écouté tout ça et qui écoutaient Macron, etc., quand même offrir le contrepoint de Jean-Claude Jancovici, qui, je pense, dit des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, mais... Et allez lire, sur LinkedIn, il poste des choses, je trouve, très intéressantes, et notamment, il disait, c'est son point de vue en tout cas, mais que l'énergie nucléaire, donc on a de l'énergie, oui, mais si c'est pour alimenter de l'IA qui résolvent que des problèmes de gens riches, qui résolvent des faux problèmes de gens riches, en quelque sorte, je suis désolé, je résume un peu vulgairement, etc., mais bon. Ben en fait, ça sert à rien, c'est-à-dire on continue à gaspiller de l'énergie, quoi. Et donc, par rapport à nos enjeux climatiques, ce qu'il faut, c'est consommer moins d'énergie. Et donc, et on le sait, je ne vais pas le redire, évidemment, l'IA consomme énormément d'énergie, et le fait qu'elle vienne qu'elle soit décarbonée, comme l'est le nucléaire, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, ça, on ne change rien au fait que il faut bien se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de produire tout ça? C'est-à-dire, si on consomme... Donc voilà, donc c'est toujours, on en revient à la même chose, les usages, la consommation, l'optimisation. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup de lire ce qu'il écrivait, parce que moi, je trouve que c'est une critique qui est valable, qui est intéressante en tout cas, et qu'il faut obligatoirement prendre en compte pour ne pas non plus écouter juste le discours de, oui, on va mettre 100 milliards de dollars, on a des centrales nucléaires, et donc on va construire des data centers et on va être le premier acteur européen ou un acteur dans le monde, etc. Moi, je suis content qu'il y ait des acteurs européens. Tant mieux si c'est la France, que ce soit une initiative européenne. Moi, ça ne me change rien. Tant qu'il y a d'autres initiatives que la Chine et les États-Unis, j'ai envie de dire que c'est bien. Ce serait bien qu'il y en ait même ailleurs dans le monde, aussi dans les pays du Sud, etc. quoi. Donc voilà, donc je vous mettrai ça en ressources. Allez lire si ça vous intéresse. J'espère que ça vous intéresse. Si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas que intéressé par les grandes annonces et la débauche d'innovation enfin, et d'annonces, etc. Et que aussi vous avez envie d'avoir des contrepoints intéressants. Donc voilà, et donc, en bonus de tout ça, dans le cadre du AI Summit, il y a eu une annonce de Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union Européenne, von der Leyen, Ursula, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute, je suis un peu fatigué, c'est tard ça, qui a annoncé qu'il y aurait 200 milliards d'investissements pour positionner l'Europe sur une alternative développement américain, sur l'open source précisément. Ça, c'était dans les annonces, donc ça, c'était intéressant que l'Europe mette au cœur l'open source. Alors, comme le disait Arthur Mensch de Mistral, bon, bah, quand on est un challenger, on a intérêt un peu à passer par l'open source, ça fait... Et voilà, et donc les Américains sont très... Mais même les Américains, d'ailleurs, j'ai vu aussi passer des news où Sam Altman disait que oui, bon, il devait aussi aller vers l'open source chez OpenAI, etc. Blablabla. Quand on sait que OpenAI a Open dans son nom et qu'à la base, c'était une association, etc. Bon, bref. Voilà, on peut se poser quand même des questions sur la bonne volonté de ses propos, mais voilà. Et dernière chose, quand même, petit signal intéressant que j'ai noté dans tout ça, il y a eu une proposition, donc, souvent dans ces sommets, après, ils proposent des propositions que tout le monde doit signer, etc. Donc là, il y avait une proposition pour qu'une déclaration d'intention de faire de l'IA ouverte, éthique, etc., que les Anglais et les Américains ont refusé de signer parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la gouvernance, tout ça. Donc voilà, donc c'est quand même un peu mal barré, quoi, avec tout ça. Donc voilà, donc moi, je ne sais pas où on va. Je le dis, je suis très très intéressé, je parle et on pourrait dire, des mauvaises langues quelque part pourraient dire que mon fonds de commerce maintenant c'est aussi un petit peu l'IA. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'IA raisonnable, c'est. Enfin voilà, c'est l'IA qui a du sens et des bons usages et pas les annonces, etc. Donc voilà, donc ce AI Summit, donc j'ai suivi un peu de loin. Bon bah c'est la continuation quoi de ce qu'on a vécu un peu dans ce début d'année. Donc voilà, bon bah j'en ai parlé 10 minutes. Je pense que ça c'est pas non plus trop, je vais pas trop contribuer au bruit global. On a vu passer dans toutes les sources. J'espère que je vais vous proposer quelque chose d'un peu intéressant. C'est vrai que dans les médias, c'était un peu laborieux. Il y a eu une journée entière sur France Info qui était dédiée à l'IA. Ça c'est bien, je salue tout à fait ça. Et il y avait des fois des discussions très intéressantes, puisqu'ils donnaient la parole à plein de gens différents. Je sais pas tout, évidemment, mais des fois il y avait des choses aussi très approximatives, et il y a des gens qui sont interrogés, qui sont enfin qui en position un peu d'experts, qui disent des choses quand même qui sont un peu. Voilà, quoi, et puis qui vont pas toujours avancer les choses dans le bon sens, quoi. Donc voilà, mais cela dit, pour tout ça, donc j'ai regardé là dans le train, dans mon train de retour pour Nantes, j'ai fini, en fait, j'avais commencé. L'interview de Mistral, donc du cofondateur de Mistral, Arthur Mensch, est vraiment une masterclass. Je la trouverai sur la chaîne de Underscore, je sais pas, je la remettrai, mais je pense que j'ai déjà mis en. On va pas remettre tout le temps les mêmes ressources, mais il explique quand même beaucoup de choses très intéressantes aussi sur ses enjeux. Et forcément, lui, il a un discours aussi, voilà, où il souligne le fait que c'est important d'avoir des alternatives. Donc, bon, évidemment, lui, il représente une des alternatives, mais. Il justifie bien toutes ces choses-là, je trouve. C'était vraiment une interview de très très bonne qualité. Voilà, ça c'était ma petite partie, donc ma petite vision, humblement, juste de loin. Un peu. Je suis pas journaliste, hein, j'aimerais bien, c'est un métier que j'aurais pu aimer faire. C'est pas mon cas, moi ce qui est mon sujet, c'est vraiment la technique. Et donc, bon, dans ce podcast, bah, je prends un peu le micro pour commenter aussi un petit peu des choses, mais voilà, j'ai pas fait un travail journalistique sur le AI Summit. Et j'aimerais avoir le temps peut-être, mais bon, c'est pas, je choisis de passer ce temps plutôt sur les sujets techniques. Donc voilà, donc mes two cents, comme on dit en anglais, sur le sujet. Un autre truc que j'ai vu passer, que j'ai trouvé assez intéressant, que j'ai lu de manière assez détaillée, même si je suis un peu trop fatigué peut-être pour bien vous le retranscrire. Et encore une fois, c'est comme tout, hein, j'ai envie de faire des podcasts un peu courts, et donc j'ai envie de vous aiguiller aussi vers des ressources. Mais donc nos amis d'Anthropic, donc une autre société américaine avec des modèles d'IA propriétaires, j'ai envie de le préciser, même si c'est l'outil que j'utilise au quotidien, hein, Claude, les éditeurs donc de Claude, ils ont proposé, et je trouve ça très intéressant, donc l'initiative, donc un papier de recherche, qui est une étude, en fait, qui s'appelle donc le Economic Index. Donc ils proposent un nouvel index qui étudie le. Ah, pardon, j'ai éternué. Voilà, ça, on va voir si ça sera normalement ça, avec la post-production que j'utilise, ça doit être supprimé, mais on verra. Donc, désolé, je ne veux pas de montage, tout automatisé. Désolé pour ça. Alors, donc, les gens d'Anthropic, donc ils ont proposé un index économique de l'usage de l'IA. Donc, pour essayer de comprendre, donc c'est une méthode. En fait, avant tout, au-delà des résultats que je vais un petit peu vous décrire, mais qui sont un petit peu biaisés, ils le disent eux-mêmes, mais ils ont proposé surtout une méthodologie pour essayer d'étudier les usages de l'IA dans professionnels. Et donc, en fait, ils ont utilisé une base de données qui existe apparemment aux États-Unis qui décrit des métiers et les tâches que les font les gens dans les métiers. Et ils ont utilisé ça pour catégoriser, donc ils créent tout un dataset, un jeu de données, en utilisant des prompts anonymisés pour faire matcher des prompts avec des vraies tâches de métier, de compétences utilisées pour un métier. Et donc, ça leur a permis de catégoriser finalement des prompts. Pour savoir, pour comprendre les usages professionnels des gens. Alors, c'est intéressant parce qu'ils ont bien expliqué aussi les biais qu'il y a, et notamment, un des résultats qui est intéressant, c'est que bah, un des usages principaux de l'IA, c'est pour le code, la génération de code, mais comme il l'explique, il y a un petit biais là-dessus dans la surreprésentation, puisque Claude est avant tout présenté comme un modèle, un des modèles les plus puissants, et c'est vrai, hein, Sonnet 3.5, c'est un des modèles top de l'usage de l'IA, quoi. Donc, de l'usage, enfin, un usage de l'IA pour le code. Donc, forcément, ça explique qu'un modèle qui serait un peu spécialisé sur autre chose pourrait avoir un truc différent. Mais encore une fois, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils proposent une méthodologie. Et il suffirait d'utiliser la même méthodologie sur un autre dataset pour avoir d'autres résultats. Alors, ils utilisent quand même, donc, ils proposent des résultats sur leur dataset. Et un des trucs qu'ils trouvent, qui une des de leurs convictions, enfin de ce qui ressort pour eux, c'est qu'ils considèrent que ce qui est montré dans l'IA, c'est qu'il n'y a pas de preuves concrètes que l'IA est utilisée pour remplacer des métiers, c'est-à-dire pour automatiser entièrement des métiers, mais plutôt pour eux sur le fait de augmenter. Donc ça ne remplace pas en gros les tâches, les gens. Par contre, ça travaille avec eux. Et c'est ce que moi je vous répète depuis un moment. L'IA, c'est un assistant, ça ne vous remplace pas, ça, aujourd'hui en tout cas. Et donc ça vous augmente potentiellement. Alors j'ai lu, hein, je fais une petite digression, c'est un peu un long épisode, non, ça va, on a 15 minutes. J'ai lu, il y a un article très intéressant dans Le Monde Diplomatique que ma mère m'a donné sur l'IA, si je m'intéresse à ça, où il faisait un historique et il parlait en fait du vision de certains précurseurs de l'IA dans les années 50, 60, dans la Silicon Valley, qui faisait une distinction entre l'IA qui augmente un humain et l'IA qui améliore un humain. Et ça, c'était très intéressant. C'est une différence qui peut être assez fine, hein, mais je trouvais ça intéressant. Et donc là, c'était marrant de retrouver un petit peu ce mot d'augmentation. Donc l'augmentation, bah, c'est juste, vous pouvez mieux faire certaines choses que vous faites. Améliorer, ça vous aide à vous améliorer intrinsèquement. C'est un petit peu la différence. Vous apportez des choses même sans l'IA, mais que l'IA vous apporte et que vous gardez. Et puis que l'augmentation, c'est juste quand vous utilisez l'IA, vous êtes vous-même, mais un peu augmenté. C'est-à-dire vous pouvez faire des choses un peu mieux ou un peu plus vite. Ou voilà. Mais voilà, donc c'était intéressant, vraiment, qui trouve ça. Et ça ne m'étonne pas vraiment, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, donc ça renforce mon idée vraiment qu'il ne faut pas se dire qu'on va remplacer complètement, mais qu'on peut s'aider, de voilà, valider des choses qu'on a fait, générer des idées, mais toujours repasser derrière. Enfin, voilà, itérer. Donc voilà, donc je vous mettrai pareil les liens vers. Donc en fait, il y a un article sur le site d'Anthropique qui explique cette étude, et puis après, il y a le vrai papier de recherche aussi auquel vous pouvez accéder. Et donc moi, pour l'anecdote, hein, moi j'ai mis l'article et le papier de recherche dans Notebook LM, et puis j'ai écouté un petit podcast créé à partir de ça de 10 minutes, et c'était hyper intéressant. Voilà, donc là, je vous ai fait un résumé très rapide. Hein, enfin, mais lisez, c'est très lisible. Hein, c'est pas, moi, des fois, j'ai un peu du mal à rentrer dans les études comme ça, parce que j'aime bien juste voir les stats et tout. Mais là, c'est très clair. Donc, ça montre les proportions des usages en différents métiers. Aussi, ça montre, par exemple, il y a une dernière petite stat qui est intéressante. Il montre que l'IA est très utilisée pour... Il regarde en fonction des salaires, en fait. Et en fait, il montre que les usages de l'IA, donc si on divise les niveaux de salaire en 4, donc les gens qui ont des bas salaires, des salaires moyens, des salaires un peu élevés, puis des très gros salaires, ils montrent que l'IA est beaucoup utilisée par les gens qui ont des salaires moyens et élevés. Mais les gens qui ont des très gros salaires n'utilisent pas l'IA, et les gens qui ont des très bas salaires n'utilisent pas l'IA. Très bas salaire, ça paraît logique, c'est beaucoup du travail manuel, des choses comme ça, donc on voit pas l'usage de l'IA. Par contre, c'est un peu plus étonnant, les gens qui ont des très hauts salaires n'utilisent pas non plus l'IA. Donc voilà, bon, on peut imaginer pourquoi, hein, mais voilà, c'est ce genre de choses qu'ils ont étudiées. Et le fait d'avoir fait toute cette catégorisation et tout des prompts qu'ils ont reçus et puis de les rattacher à des métiers et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment franchement intéressant. Je suis pas toujours passionné par les études et choses comme ça un peu, mais là je trouve que c'est chose intéressante. Et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un index maintenant qu'ils vont mettre à jour régulièrement, et donc on pourra suivre l'évolution dans le temps aussi de ces choses-là. Voilà, donc ça pour moi, là on est sur des choses un petit peu plus concrètes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, donc, évidemment, Dario Amodei, le CEO de fondateur d'Anthropique, était au Summit et il a pris la parole, etc. Et donc, il y a un autre article sur la page le site d'Anthropique qui résume un peu ce qu'il a dit, etc. Et notamment, il a dit que, voilà, eux, ils avaient proposé cet index, mais ce serait bien que les gouvernements et tout fassent ce genre d'études aussi pour comprendre vraiment l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi et tout. Et qu'on ait une vision aussi un petit peu plus claire de toutes ces grandes choses qu'on a entendues l'année dernière. Des fois, on entendait des gens qui disait 80% des jobs vont être remplacés par l'IA, machin, bon, des trucs un peu complètement sans trucs concrets. Bon, bah là, avec ce genre d'études, on a des visions un petit peu concrètes. Voilà, allez, je m'arrête là, ça fait 20 minutes tout pile. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, on se retrouve sur le Slack Media IAX No Code, sur le Slack de No Code France. Un jour, je vais finir par trouver un bon branding. Je commence à arriver sur quelque chose de sympa. Donc voilà, on se retrouve sur le Slack pour continuer la discussion, et puis on se retrouve demain pour un autre épisode, un peu plus no-code que l'IA cette fois, même si évidemment il y aura un petit peu d'IA aussi dedans. Allez, bonne journée, bonne soirée, à bientôt.